Bonjour Luc.
Bonjour Ludovic, bonjour à tous.
Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on va égorger des poulets, leur arracher la tête et manger leur cœur sur scène.
Très bien, donc vous l'avez compris, aujourd'hui c'est les Sex Pistols, non pas que ce soit le jingle de l'émission, mais on en avait parlé la dernière fois, la semaine dernière, après cette émission formidable sur les Clash. Aujourd'hui les Sex Pistols, Luc.
Oui, au départ on voulait faire une émission avec Dick Rivers, et puis finalement on s'est dit que les Sex Pistols c'était un petit peu plus rock'n'roll, et surtout ça suivait bien les Clash, parce que finalement les deux groupes ont cohabité, tant bien que mal, pendant quelques années.
Par contre, on déconne pas, mais on a beaucoup de demandes pour faire une émission sur Dick Rivers, donc elle devrait quand même arriver un de ces jours.
Oui, alors on va peut-être attendre quelques semaines.
Hein, attendre qu'il soit mort.
Attendre qu'il soit mort, par exemple, me semble une très bonne idée, oui.
Voilà, un chanteur héros après.
Oui, c'est ça.
Alors les Sex Pistols, dis-moi.
Les Sex Pistols, c'est un groupe un petit peu mythique et météoritique, en fait, parce qu'ils ont fait un seul album en studio et une vraie carrière de 3 ans. Après, ils se sont reformés plusieurs fois. Mais c'est un peu l'essence même du punk, finalement. Violent, sans véritable message et surtout totalement météorique, en fait. Je crois que c'est le terme qu'on peut utiliser pour ça.
D'accord, niveau date, c'est quelle décennie les Sex Pistols ?
Les Pistols, c'est 75-78 pour la formation originale. C'est celle où ils ont sorti leur fameux album Nevermind the Bollocks, qui est, donc, comme je disais, leur seul album en studio, hein, finalement. Et ensuite, il y a eu deux reformations avec différents membres, sauf Sid Vicious, le bassiste, parce qu'il ne pouvait pas venir, il était mort en fait. C'est un problème.
C'est un problème pour se rendre au studio. On reviendra sur les causes de sa mort plus tard.
Oui, on reviendra un peu sur les causes de sa mort et sur le personnage aussi qui était Sid Vicious, qui est aussi un beau symbole de ce qu'a été le punk de ces années-là.
Bon, pour bien se mettre dans l'émission, on va peut-être écouter un titre. On commence par quoi, Luc ?
Oui, alors on aurait pu prendre Anarchy in the UK, mais c'est notre générique. Donc vous venez de l'entendre. C'est pourtant un des titres phares des Pistols. On va peut-être en écouter un autre qui s'appelle New York, qui est un petit peu un hommage, ou pas vraiment un hommage d'ailleurs, au punk new-yorkais, un autre groupe punk qui s'appelait New York Dolls.
Allez, c'est parti.
C'est parti.
Yeah.
Et voilà pour ce premier titre de cette émission, New York, qui n'a rien à voir avec la chanson de Frank Sinatra, New York, New York, qui non, est une chanson exactement. Des Sex Pistols. On va un peu parler de leur histoire. Alors Luc, je te laisse.
Oui, alors l'histoire des Pistols, elle est un peu chaotique, bon, comme le groupe finalement. Tout commence dans les années 75 avec un groupe qui existe un peu, qui vivote et qui tourne autour d'un magasin qui s'appelle Sex, monté par Malcolm McLaren et la styliste Vivienne Westwood. C'est un peu le lieu où se retrouvent tous les rockers, tous les punks du coin qui vendent des fringues, des pareillés.
C'est à Londres. Chirés.
C'est à Londres, oui, pardon. Des habits en latex, des godemichés, enfin, tout un attirail un peu particulier qui tire donc tous ces gens-là. Et parmi les gens qui viennent à la boutique, il y a un certain John Lydon qui est venu avec des cheveux teints en vert.
Un Irlandais peut-être.
Et il était d'origine un peu irlandaise, ouais, effectivement, mais il avait aussi un t-shirt sur lequel il y avait écrit « Je déteste Pink Floyd ». Voilà, donc il est passé plusieurs fois et Malcolm McLaren, en fait, était à la recherche d'un leader pour un groupe qu'il essayait de monter. Il a repéré ce gars et puis il a essayé de le faire chanter. C'était dramatique, en fait, mais finalement, le mec, le personnage, leur a plu. C'est comme ça que John Lydon est devenu le leader d'un groupe qui va s'appeler Sex Pistols, notamment par rapport au nom du magasin de Malcolm McLaren. C'est ainsi que commence l'histoire. Alors, les Pistols sont toujours entourés d'un groupe, d'une bande qui s'appelle le Bromley Contingent, et dans lequel on va retrouver pas mal de gens qui plus tard eux aussi se lanceront dans la chanson, des gens comme Billy Idol, Siouxsie, qui sont un peu tous ces gens. Et parmi ces gens, il y a aussi Sid Vicious, qui va devenir plus tard le bassiste du groupe. On y reviendra un peu plus tard.
Un des personnages les plus connus du groupe, d'ailleurs.
Voilà, exactement, l'une des figures emblématiques du groupe. Donc les Pistols commencent petit à petit à se faire connaître sur la scène anglaise, mais finalement c'est pas vraiment leur musique qui va marquer les gens, c'est plutôt leur comportement. Il y a notamment un jour, ils passent dans une émission sur la télé londonienne, avec effectivement toute cette bande du Bromley Contingent, et il y a l'animateur qui commence à les provoquer, il commence à demander à John Lydon, qui entre temps s'est fait appeler Johnny Rotten. C'est Johnny le pourri, voilà son nom de scène.
Jérôme Rotten, tu veux dire?
Non, Jérôme Rotten, c'est son cousin.
Ah, c'est son cousin.
Oui, c'est son cousin.
C'est Johnny Rotten.
Voilà, ceci dit, je pense que Jérôme Rotten est aussi bon au football que Johnny Rotten.
Au chant.
Au chant. Donc il le provoque, il lui dit de dire un gros mot, donc Rotten dit shit, pour la première fois à la télévision anglaise, et puis il commence à s'insulter, quoi. Et puis il y a un des membres du groupe qui traite l'animateur de « vieux salopard ». Ah. Voilà, ce qui prend ça dans les dents. Et ce qui, dans l'Angleterre la fin des années 70, c'est quand même pas super bien passé, en fait.
Donc, déjà que sale mec, ça passe pas de nos jours. Alors,
déjà que.
Le salopard.
Espèce de vieux salopard, ça peut un petit peu choquer. Je peux le comprendre. Ça n'empêche pas le label EMI de signer le groupe.
Peut-être que ça les aide, d'ailleurs, justement.
Ouais, c'est un peu ce qui fait que les Pistols commencent à avoir effectivement cette notoriété. Et on l'a dit, c'est pas nécessairement musicalement, parce que c'était pas non plus de la très grande musique. Mais ça les arrête pas. Par contre, ils signent avec EMI, ils doivent partir en concert aux Pays-Bas. Et au moment de l'enregistrement à l'aéroport de Londres, ça part en carafe encore. Hein. Donc voilà, donc, d'après les témoignages de l'époque, un témoin a affirmé que les Sex Pistols faisaient des choses tellement répugnantes qu'elles ne pouvaient pas les répéter pour la publication. La rumeur court que Jones, un des membres du groupe, a vomi sur des femmes âgées dans la salle d'embarquement. Voilà, ami de la poésie, bienvenue dans le monde du punk.
Et oui.
Voilà, ce qui fait que deux jours après, EMI va rompre le contrat signé avec le groupe.
Les insultes, ça va, mais bon.
Ouais, vomir sur les gens, c'est moche.
C'est moche, ouais. C'est pas très beau.
Surtout dans un
aéroport.
Voilà, mais le groupe va quand même continuer, c'est pas ce qui va les arrêter. Il y a un nouveau bassiste qui va arriver, parce que le président, donc Glenn Matlock, alors, il se reprochait à Glenn Matlock d'être trop mielleux parce qu'il écoutait les Beatles.
Ah, et oui.
Voilà, ça, apparemment, pour eux, c'était une faute grave.
Et oui, pour les punks.
Donc, ils vont aller chercher un copain de Johnny Rotten, qui s'appelle Sid Vicious. Et bah, Malcolm McLaren, donc le producteur du groupe, lui, il est fan, hein, parce que Sid Vicious, c'est Johnny Rotten Force 10. Mais par contre, il ne sait pas du tout jouer de la basse, quoi. C'est un mec qui ne sait pas vraiment jouer de la basse, qui ne sait pas vraiment faire de la musique.
Avec un mec qui ne sait pas chanter.
Avec un mec qui ne sait pas chanter, forcément, ça a ce côté un petit peu fou. Mais voilà, tout le monde était d'accord, ce que déclare Johnny Rotten, c'est que tout le monde était d'accord pour dire qu'il avait le look, mais son talent musical, c'était une autre histoire. Heureusement, c'était son pote. Hein. Voilà, en fait, Sid Vicious, c'est pareil, c'est un mec issu d'un quartier un peu craignos, qui a eu une jeunesse avec une mère toxico, qui se bagarrait, il se bagarrait tout le temps à l'école. Et il a rencontré Johnny Rotten en traînant un peu dans les squats, etc. C'est comme ça qu'ils ont commencé à se lier et que Rotten, quand ils ont viré leur bassiste, a pensé à lui pour continuer l'aventure. On reparlera un peu plus tard justement de la triste histoire de Sid Vicious qui a fini tragiquement. Alors que Nico, lui, ce que vous ne savez pas, hein, c'est que Nico, quand il était jeune, avait une crête verte et orange, un peu comme Olivier Giroud, nous dit-il, et qu'il a malheureusement abandonné, hein, quand il a commencé à travailler, ce qui est, mais ça l'empêche pas, il n'a pas totalement renié sa culture punk, reste encore ses tatouages et ses piercings à des endroits qu'on ne peut pas vous donner parce qu'il y a des...
I love dollar, il a un tatouage. Voilà. Ça, c'est punk.
Hein. C'est un peu...
Il est aussi beau gosse. Il a un tatouage beau gosse.
Il a un tatouage beau gosse aussi. Ouais. Il aurait pu faire partir des Pistols, hein, je pense.
Ouais.
Il était bien parti... des pistons. Des pistons. Voilà, donc ça, c'était l'arrivée de Sid Vicious qui va relancer un peu les aventures du groupe. On va peut-être écouter un nouveau titre.
Je ne dirais pas avec plaisir, mais écoutons un nouveau titre. Oui, parce qu'il faut préciser qu'on est totalement d'accord, Luc et moi, que Sex Pistols, c'est de la merde. Mais c'est quand même un groupe...
Mais c'est quand même un groupe qui a marqué l'histoire de la musique.
Légendaire. C'est un groupe légendaire, donc on est obligé d'en...
C'est mythique.
C'est mythique, avec un bassiste qui ne sait pas jouer, il y a un chanteur qui ne sait pas chanter. On va écouter...
On va écouter Pretty Vacant, qui est un des premiers morceaux de Nevermind the Bollocks, qui veut dire en français « On s'en fout ».
It's now
Voilà donc pour cette chanson Pretty Vacant.
Oui, et les pistoles n'étaient pas une provocation près. La preuve, en 77, la reine d'Angleterre va fêter ses 25 ans d'or. Règne, un truc très officiel, très oui, classe.
On voit comment ça se passe même de nos jours quand il y a des cérémonies officielles.
Donc là, on peut imaginer que déjà, c'était quand même dans les années 70, et c'était encore un peu plus serré, un peu plus pincé. Et les pistoles vont sortir un disque, un 45 tours, qui ça s'appelle God Save the Queen. Alors forcément, généralement, quand un groupe de rock reprend un hymne national, c'est pas généralement super classique. Et là, ça commence bien parce que le signe avec une nouvelle maison de disques qui est AEM Records. Ils vont fêter leur contrat tout content, et puis voilà, ça dégénère encore. Vicious devient bourré, il se bat à moitié avec le directeur de la maison de disques. Il vomit sur son contrat. Apparemment, il avait des problèmes digestifs, visiblement.
Décidément, ouais.
Donc, 6 jours après, AEM rend le contrat avec les pistoles. Après 6 jours après l'avoir signé, ce qui est quand même un peu dommage. Et puis le groupe continue à avoir des problèmes avec son album parce qu'il y a des problèmes sur la pochette du disque. Parce que la pochette qui représente, c'est un portrait de la reine barré par le nom des Pistols et par le nom du morceau. Et l'imprimeur il dit non, on peut pas imprimer ça, je crois que ça va pas être possible. Donc du coup, il faut encore négocier. Là, c'est Malcolm McLaren qui s'y colle, mais lui il est ravi parce que ça fait encore une fois parler de ses poulains. Donc ça négocie, donc l'album peut sortir. Il sort le 27 mai et là l'Angleterre entière est scandalisée par God Save the Queen, qui commence par God Save the Queen and His Fascist Regime, donc Dieu sauve la reine et son régime fasciste.
Ce qui ne sont pas les paroles originales.
Qui ne sont pas véritablement les paroles qu'on a l'habitude d'entendre lorsqu'on entend le God Save the Queen. Donc une fois encore, la BBC et toutes les radios refusent de passer le morceau, forcément. Ils sont un petit peu frileux quand même, des fois. Mmh. Et c'est en fait le titre britannique le plus censuré de tous les temps. Et Steve Jones, qui est un des membres du groupe, qui était le guitariste du groupe, déclare « Je vois pas comment on peut nous décrire comme un groupe politique, je connais même pas le nom du Premier ministre. » Voilà, pour ceux qui cherchent un vrai message chez les Sex Pistols, par contre, c'est raté. Hein.
Oui, on avait parlé déjà la dernière fois, le rapport avec les Clash, il n'y a pas de message chez eux.
Voilà. Mais c'est pas fini, cette histoire.
Ah.
C'est pas fini.
Qui vomit où ?
Alors, ça vomit pas, ça va se battre, hasard. Donc cette fois, le morceau sort le week-end du jubilé de la reine, c'est-à-dire le week-end où on fête les 25 ans de règne d'Elisabeth II. 150 000 copies sont vendues en une semaine, ce qui est quand même pas mal. Et le 7 juin, le manager du groupe loue un bateau pour que le groupe puisse jouer sur la Tamise en passant devant l'abbaye de Westminster et la chambre du Parlement, qui sont deux hauts lieux de la monarchie anglaise. Au départ, ça devait être une petite blague pour se moquer un petit peu du jubilé qui doit normalement se dérouler 2 jours après. Et puis, ça finit mal. Ça part en carafe encore. Beaucoup de membres du groupe sont arrêtés par la police. Le navire est arrêté. Enfin bref, ça finit encore mal. Le truc, c'est qu'après après ça, il y a un nouveau single qui va sortir, une tournée aux États-Unis et qui est un échec. Et Johnny Rotten va quitter le groupe après ça pour se lancer tout seul. Finalement, ce Nevermind the Bollocks qui sort fin octobre, qui sort en gros 6 mois après fin octobre 77, moins de 6 mois après
la création du groupe.
Après surtout les incidents sur la Tamise. C'est finalement un peu leur chant du cygne. Le groupe va exploser quasiment de suite après, quoi.
Et c'est le seul album studio qu'on ait.
C'est le seul album studio qui existe des Sex Pistols. C'est 45 ou 50 minutes de brutalité et de violence pure. On va peut-être s'écouter le God Save the Queen.
Allez, c'est parti. Alors,
la version des Pistols, hein, pas celui qu'on chante avant les matchs de rugby.
D'accord, on va écouter celui des Pistols.
Regime, it made you a moron, potential hate bomb.
Voilà, donc pour God Save the Queen, alors un petit mea culpa, parce que c'est vrai, tout à l'heure on a dit c'est de la merde, c'est pas totalement de la merde, j'avoue que j'aime bien cette chanson.
C'est vrai que celle-là, elle a du chien quand même.
Elle est pas mal.
Elle est pas mal. On va parler de ce bassiste fou, Sid Vicious, qui est arrivé un peu au milieu de l'aventure des Pistols. C'est un gars qui est né en 57, donc il a une vingtaine d'années, pas tout à fait, quand il rentre dans le groupe. Comme je disais, hein, c'est ado, il rencontre Johnny Rotten. Non, excusez-nous, il y a Nico là qui veut traverser le studio. On ne sait pas trop ce qu'il fait.
On ne sait pas, on est entre le bureau de Nico et les toilettes.
Voilà, donc on préfère pas savoir. On vient de parler de punk, de choses comme ça.
Ouais.
On va peut-être pas aller aux toilettes de suite après.
Ouais. Hein. Oh, non, on va attendre.
Donc il rencontre Rotten quand ils sont ados, à l'école. Et Rotten lui donne le surnom de Sid, qui est le nom de son hamster.
C'est sympa, tiens.
Voilà, exactement.
Tiens, je vais t'appeler comme on Kleps. Je t'aime bien.
Ah, voilà, c'était bien, Nico.
C'était bien, Nico. Allez, ça va. On te laisse ressortir, allez, si tu veux. Alors, on reprend.
Voilà. Donc, il va lui donner le prénom de son hamster, ce qui est effectivement pas très sympa. Ouais. Vicieux.
Peut-être qu'il aimait bien son hamster aussi.
Peut-être qu'il aimait bien son hamster. Il y a peut-être ce côté-là. Donc Vicious vient d'une chanson de Lou Reed. C'est un peu ironique parce qu'il était plutôt à la base plutôt calme, Sid Vicious, John Ritchie de son vrai nom.
Ça claque moins.
Ouais.
John Ritchie.
Ouais, Sex Pistols. Au départ, il n'est pas dans le groupe. Hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, il fait partie de ce fameux Bromley Contingent. Ces fans qui suivent les Pistols à tous leurs concerts. La légende veut que c'est lui qui a inventé le pogo, cette danse favorite des punks. Tout bêtement, parce qu'il était... Il était dans un concert, il ne voyait pas ce qui se passait, donc il s'est mis à sauter pour voir la scène. Et tous les gens du groupe, de la bande, ont fait de même. Donc il y a une vingtaine de personnes qui sautent dans une salle de concert, apparemment. Ça, c'est plutôt entraînant, donc tout le monde a fait ça. C'était pas un ange non plus. Hein. Ils ont frappé un journaliste, Vicious en tête, avec une chaîne à vélo.
Alors que c'était tellement plus simple de lui vomir dessus.
C'est vrai que, ça devenait classique de vomir sur quelqu'un.
Ouais, il fallait changer une chaîne de vélo, oui, pourquoi
chaîne,
pas.
Une chaîne de vélo, c'est pas mal. Donc on l'a dit, hein, voilà, c'est que quand il vire le bassiste qui écoutait les Beatles, Rotten appelle Vicious pour le remplacer. On disait, il avait déjà joué mal et occasionnellement comme batteur dans un autre groupe et il avait jamais touché une basse de sa vie. Hein, voilà, quand il commence avec les Pistols, il a pas touché une basse. Il apprendra au fur et à mesure dans les concerts.
Et la basse qui n'est pas l'instrument le plus dur de tous les instruments rock et punk.
Voilà, sans vouloir faire offense à tous les bassistes de la Terre, c'est pas le plus compliqué. Il faut savoir aussi, l'arrivée de Sid Vicious coïncide aussi avec cette image dépravée et provocante que porte le groupe et qui finalement est un petit peu... Plus que véritablement sa musique et sa marque de fabrique. Sid Vicious, par exemple, un jour se promener sur scène avec un t-shirt avec une croix gammée. Et c'est ce qui va faire parler du groupe, pas nécessairement bien, mais ça rajoute à la légende. Il va en même temps rencontrer une groupie, une fille qui s'appelle Nancy Spungen, dont il tombe amoureux, mais qui est héroïnomane et qui va le faire plonger complètement
dans la dope et dans
le drame. Après la séparation du groupe, après le départ de Johnny Rotten, après la tournée américaine, il va tenter une carrière solo. Ça va être un grand succès. La seule chose qu'on va garder de lui, c'est, tu parlais Frank Sinatra tout à l'heure, c'est son interprétation de My Way, qu'on va écouter tout à l'heure, mais qui est vraiment, vraiment spéciale et que personnellement j'aime beaucoup. Voilà, il va essayer un peu de s'en sortir, mais c'est pas gagné. On se souviendra par exemple, vous avez peut-être vu, il y a des images de Sid Vicious dans un concert américain qui attend avec sa basse, là, qui attend avant de commencer à jouer. Et le groupe attend, et arrive ce qui arrive, il prend une canette de bière dans la tête. Et voilà. Pour les Pistols, c'était le signe de départ, ils ont pu commencer à jouer, à envoyer. Ça résume un peu l'état d'esprit dans lequel ils étaient.
On pourrait faire pareil dans le sport, pour le 100 mètres. On hop là, une canette.
Une canette, ça éviterait les faux départs, peut-être.
Ouais. Usain Bolt aurait été peut-être champion du monde cette année.
Ouais, c'est ça.
Nouvelle fois.
Il faut penser à enlever la canette après, parce qu'on risque de glisser.
Tu peux glisser aussi.
La vie de Sylvicius, elle n'est pas finie, malgré tout. C'est la fin des Pistols, mais ça ne va pas durer très longtemps. En 78, dans un hôtel de New York, la police de Manhattan retrouve le corps ensanglanté et poignardé de la petite amie de Sylvicius. Et qui est là à côté d'elle, totalement prostré. Il est emprisonné. McLaren appelle les meilleurs avocats pour tenter de le sortir d'affaire. Il est relâché 10 jours plus tard contre le paiement d'une caution de $50,000. Le problème, c'est que voilà, le couple serait disputé, un moment de manque. Il y avait un couteau sur la table et Vicious l'aurait enfoncé à lame de 15 cm dans l'estomac de sa petite amie qui avait 20 ans, lui 21. Il essaye de se suicider en sortant de l'hôpital, en se taillant les veines. Là encore, il est sauvé. Tant bien que mal, il se rétablit, il repart dans sa vie de rockstar. Totalement dépravé, il explose une bouteille à la gueule du frère de Patti Smith, il repart en prison, relâché en 79. Il y a une fête qui est donnée en l'honneur de sa sortie de prison. Il s'injecte une dose d'héroïne, d'après la légende apportée par sa mère, pour que il cherche pas à lui à aller s'en chercher lui-même.
Ça ne pas les parents en Angleterre à cette époque.
Cool, ouais, voilà. C'est cool.
Beau cadeau.
Tiens chérie, je t'ai amené ta dose. Il continue à faire la fête. Il fait un petit malaise. Il continue à faire la fête. Il en reprend une deuxième. Le lendemain, il est mort. Overdose. On ne saura jamais si c'est vraiment lui qui a tué sa petite amie. On ne saura jamais quel avenir il aurait pu avoir. Son corps est incinéré. Officiellement, ses cendres sont dispersées sur la tombe de sa petite amie. Ça, c'est la version officielle, parce que selon le Guardian, le journal anglais, ses cendres auraient été envoyées à Londres et auraient été éparpillées accidentellement dans l'aéroport d'Heathrow.
Là voilà. Où, alors, 80 ans, il avait vomi sur des vieilles.
Voilà. Alors, Malcolm McLaren, lui, il dit qu'il a remis personnellement les cendres à la mère de Sid Vicious, qui était ivre morte, qui les a fait tomber sur le sol du bar sur lequel ça s'était retrouvé. Et les cendres auraient donc fini emportées par une serpillière et un seau d'eau. Bon, finalement, ouais, dispersées sur le sol d'un bar, c'était un petit peu.
Ouais, c'est pas mal pour comme fin, ouais, pour un type comme ça.
Ouais, finalement, ça correspond bien à sa vie. On va écouter cette version de My Way, alors que les amateurs
de
Claude François et de Crooner nous pardonnent. Hein, c'est peut-être pas leur version préférée, mais nous, on préfère celle-là, je crois.
Regrets, I had a few, but they
Voilà pour cette magnifique version de My Way. Alors Luc, dis-moi, on en est où là ? Sid Vicious est décédé, le groupe vient de sortir un album, enfin il a réussi au bout de je ne sais pas combien d'années à en sortir un, après avoir essuyé je ne sais pas combien de refus de maisons de disques, où on en est où ?
Alors on a fini. Concrètement, après la tournée américaine 78, Rotten s'en va, il n'y a plus de groupe, Vicious meurt un an après. Concrètement, il reste plus grand chose. Johnny Rotten va former son groupe qui s'appelle Public Image Limited, PIL, avec lequel il va avoir pas mal de succès, notamment dans son style. Les autres membres du groupe vont bien, tant bien que mal, tenter de vivoter. Le groupe va se reformer dans les années 90. Encore une fois, hein, c'est pas pour l'amour de la musique hein, que le groupe se reforme. Avec Rotten, c'est plutôt pour l'argent. Avec le batteur, le guitariste et le bassiste amoureux des Beatles, Glenn Matlock, qui revient et qui reprend sa place originale au sein du groupe.
Dernièrement, on n'en avait pas parlé aussi, l'an dernier.
Il y a deux ans, je crois, le groupe a fait un retour sur scène aussi en Angleterre pour le plus grand plaisir, quelques vieux punks éméchés et quelques jeunes aussi. Faut pas les oublier. Mais bon, ça reste plus commercial que véritablement musical. De toute façon, il y a pas de nouvelles chansons. Hein. Ils vivent sur leurs acquis, sur ce Nevermind the Bollocks, Yes the Sex Pistols.
Même à l'époque, c'était plus commercial finalement que musical. C'est le groupe d'un album.
C'est le groupe d'un album d'un homme aussi. Malcolm McLaren,
d'un producteur,
voilà, qui a vraiment cherché à monter un groupe en fait, qui a plusieurs fois tenté de monter un groupe pour utiliser aussi l'image de son magasin, qui était le repère des jeunes paumés londoniens. Qui a plus ou moins réussi, qui a après eu une carrière en tant que producteur et même en tant qu'interprète lui-même.
Enfin, donc, c'est quand même fou d'avoir réussi à marquer l'histoire de la musique avec un album sans savoir jouer.
C'est vrai que c'est fou, c'est vrai que c'est totalement hallucinant, un peu comme leur histoire et un peu comme leur vie. Voilà. Après, Johnny Rotten a repris son vrai nom, John Lydon. Il a fait animer des émissions à la télé. Il a même fait une émission de télé-réalité, l'équivalent anglais de Sortez-moi de là, je suis une célébrité. Je crois qu'il a encore fait parler de lui de toute façon, un petit peu comme à la grande époque.
Et oui. Ils n'ont pas attendu pour le sortir de là, je suppose.
Non, voilà. Il est sorti très vite. Donc aujourd'hui, l'expression, punk, ça reste associé à cette période entre les années 75 et 80, qui est vraiment incarnée par deux groupes, hein, qui sont les Sex Pistols et les Clash, et à cette forme d'énergie, d'esthétique et de radicalité qui a pris le pas un peu sur le mouvement hippie qui est celui qui a marqué la décennie des années 60. Voilà, ben, la petite histoire du punk, elle a gardé quoi ? Des symboles, les épingles à nourrice utilisées comme bijoux ou sur les vêtements, les coupes de cheveux extrêmes, colorées, les crêtes iroquoises, et des piercings, des tatouages, qui ont été récupérés un peu, une sorte de punk chic. Mais bon, au-delà d'un certain nihilisme, puisque les punks de cette époque refusaient tout en bloc à l'image du No Future, ça reste en fait un mouvement qui a débordé au niveau de la créativité, de la solidarité, qui a quand même posé des bases d'alternatives sociales et économiques différentes de ce qu'on avait pu connaître jusque-là, et qui a aussi ouvert la porte à tout un tas de mouvements artistiques, musicaux, qu'on retrouve encore aujourd'hui, et dont les bases sont un peu cette époque-là de la fin des années 70. Et il y a certaines choses contrairement aux Pistols, réussi à gérer. On fait un petit dernier Pistols avant peut-être d'écouter d'autres...
Allons-y, d'autres groupes punk,
ouais.
Alors, quel dernier ?
Alors, on va écouter Holiday in the Sun, qui est une des chansons qui a annoncé le Nevermind the Bollocks.
Ce qui est bien avec les Pistols, la dernière fois, il nous manquait un CD, voire deux des Clash, au moins là, il n'y en a qu'un, on l'a.
Au moins, on l'a, c'est
celui-là,
bon.
Celui-là, on l'a,
c'est cool.
Jewish wall. I was waiting for the communist call. I didn't ask for sunshine and I got World War III. I'm looking over the wall and they're looking at me. Now I got a reason, now I got a reason. Now I got a reason and I'm still waiting. Now I got a reason, now I got a reason to be waiting. The Berlin Wall.
Voilà donc pour ce dernier morceau que nous allons écouter aujourd'hui, des Sex Pistols. Cette émission n'est pas terminée, donc on vous le rappelle, la première émission de Rock'n'Roll Diaries sur les Clash, celle-ci sur les Sex Pistols. Et pour fermer cette page punk, parce qu'il n'y a pas tant de groupes comme ça qui sont punk, on va peut-être écouter d'autres groupes justement.
Ouais, alors on répète, les deux groupes phares c'était les Pistols et le Clash. Même si il y avait quand même un des deux qui avait un vrai message, qui a eu un vrai message à porter. Mais il ne faut pas oublier d'autres formations, comme les Damned Stiff, les Damned, les Stiff Little Finger, les Buzzcocks, les Américains des Ramones ou des New York Dolls. Et en France, il y avait des groupes comme Strychnine et Stalag, pour se citer que. Des groupes comme Blondie aussi. La plupart se sont retrouvés au sein d'un club mythique qui s'appelait CBGB, qui était à New York, qui a accueilli la plupart des groupes punk et rock de cette période. Ouvert en 73, il a accueilli des concerts de toute cette scène punk et rock. Il y avait Blondie à Pete Gervais, en passant par Patti Smith. La salle a fermé en 2006, marqué un petit peu la fin d'une époque. Finalement, c'est avec la fin du CBGB, il y a un peu la fin du punk. Il y a des successeurs aujourd'hui, plutôt américains, des groupes comme Sum 41, Blink 182, The Good Charlotte ou Green Day, qui sont beaucoup plus commerciaux, ce fameux punk californien, punk rock.
Et les mélodies sont plus joviales, voilà, c'est plus positif quand même.
Et plus travaillé aussi.
Un peu plus ado aussi, il me semble.
Ouais, un peu, ouais. Et plus polissé, voilà. Mais il garde quand même une petite partie de cet esprit punk qui a fait, qui a marqué l'histoire de la musique, qui ont aussi été influencés par ces groupes-là. On va s'écouter un petit Ramones, I Wanna Be Your Boyfriend, qui fait partie d'une compile qui retrace les meilleurs morceaux des groupes passés sur ce fameux CBGB de New York.
What do you say? Do you love me back?
Voilà pour les Ramones et Wanna Be Your Boyfriend. Alors Luc, je crois que tu t'es un peu moqué de nous là, parce qu'on dirait une chanson des débuts des Beatles.
Oui, non, mais ça reste quand même une des bases du punk américain, qui est peut-être moins violent et moins brutal que son cousin britannique.
Oui, parce que alors là, pour être ado, ça l'est. Hein. Après, j'ai pas compris toutes les paroles, je t'avouerai, mais bon.
Ah, des garçons qui chantent « Je veux être ton petit ami ».
Oui.
Peut-être et alors caché derrière. Un petit peu punk.
C'est punk. Les punks sont gays.
Ça leur arrive.
Et ouais, on en avait parlé déjà la semaine dernière, que les punks étaient douillés.
C'est ça.
Ils sont aussi gays.
Ils sont aussi...
Ils font ce qu'ils veulent, de toute façon.
On va conclure cette émission peut-être en citant Lester Bang, qui est un fameux critique musical américain qui était totalement déjanté et complètement barré lui aussi, et qui a écrit après la mort de Sid Vicious. Il a écrit: le problème avec les Pistols, au-delà du sordide et de la manipulation, c'est que comme beaucoup de punk, ils faisaient seulement la moitié du chemin. Ils disaient bien que tout était nul, ce qu'il était nécessaire de dire, même si ce n'était pas forcément vrai, mais ils n'ont jamais fait le pas suivant et ajouté « Toutefois, nous avons une autre idée ». Ils n'ont jamais, ne serait-ce que commencé à essayer de découvrir quelles alternatives valides, responsables pourraient exister, ce qui, en fait, est beaucoup plus difficile que de hurler des insultes gratuites, que de ramper, de rôter, de se shooter, de se mutiler. Mais il y a bel et bien des groupes qui cherchent de manière extrêmement intelligente et méthodique les alternatives ci-dessus mentionnées. Il en existe que nous avons besoin d'explorer de toute urgence parce qu'il commence à se faire tard et que dehors, les choses deviennent de plus en plus hideuses. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir été ici un peu sermonneur. Ou, j'espère que non, faux jeton. C'est simplement que moi et tous ceux que je connais en avons marre. Nous ne voulons plus jamais discuter de Sid Vicious ou de toute cette merde-là. Au-delà d'un simple nom, nous pensons avoir besoin de changement. Finalement, voilà, ça conclut un petit peu l'épopée du punk. C'est quelques mots de Lester Banks qui, pourtant, en guise de fête et de destroy, s'y connaissait. Le punk restera finalement à jamais attaché à deux phrases, « Do it yourself » et « New future ».« Do it yourself » parce que le punk déteste le tournant mercantile de la société. Alors il crée sa propre alternative, ses propres circuits, ses labels fondés avec 3 francs 6 sous, des instruments bricolés, des fringues récupérées. « New future » parce que le punk ne vit que dans l'urgence, dans l'instant. Il n'a jamais cherché à se projeter. C'est un nihilisme de principe qui conduit à tous les excès, à la drogue, le sexe, etc. La trajectoire dramatique de Sid Vicious en est l'exemple parfait. Finalement, le dernier pied de nez des Sex Pistols restera ce jour où il devait être intronisé au fameux Hall of Fame, le panthéon du rock'n'roll, alors qu'ils fêtaient leurs 30 ans d'existence. Bien sûr, ils n'y sont pas allés. C'était une réunion, une manifestation tout officielle. Tout ce qu'ils ont fait, c'est envoyer une petite carte postale où ils estimaient que cette institution qui est le Hall of Fame n'était au final qu'un peu d'urine dans le vin. Voilà. Mm. Punk is not dead. Il n'est pas très très bien, par contre. Faut faire quelque chose, peut-être.
Et No Future.
Juste pour finir, on peut peut-être signaler quelques albums à avoir dans sa discographie.
Bien sûr.
Au niveau du punk US, il y a Horses de Patti Smith, The Ramones, des Ramones. Le punk anglais, c'est Succes and the Banshees, avec un album qui s'appelle Kaleidoscope. Et Gang of Four avec un album qui s'appelle 77, qui rappelle un peu l'année phare du punk. Au niveau français, il y a des groupes comme les Stinky Toys, Bijoux. On peut parler des Garçons Bouchers aussi, qui ont marqué un peu l'histoire du rock et du punk français.
Les Bérus.
Ou du Béru, voilà, exactement. Après, il y a ce qu'on appelle le néo-punk, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, les successeurs. The Offsprings, avec leur album Smash, fin des années 90, qui est aussi un beau moment de musique. Et Green Day, avec leur American Idiot, ou Dookie, leur premier album, qui sont aussi des bons albums.
Et les Sum 31, etc.
Sum 31, etc.
Tout ce qui va avec.
Niveau bouquin, je conseille à tous ceux qui veulent en savoir plus sur cette période-là, deux bouquins qui sont sortis aux éditions Alia, d'ailleurs des éditions que je conseille à tous les amateurs de musique parce qu'ils ont vraiment une très très belle collection de bouquins sur tous les styles musicaux. Il y en a un qui s'appelle England's Dreaming, les Sex Pistols et le Punk de John Savage, qui est sorti en 2002, qui raconte de l'intérieur un peu la vie des Pistols et leur histoire. Et un autre qui s'appelle Please Kill Me, l'histoire non censurée du punk racontée par ses acteurs. C'est aussi sorti aux éditions Alia en 2006. Et là, par contre, c'est un journaliste qui a fait un travail auprès de tous les acteurs de l'époque du punk qui donne une belle somme d'informations sur l'histoire du punk. Et puis, on n'oubliera pas l'autobiographie de Johnny Rotten, Sex Pistols, Rotten par Lydon, qui, là, pour le coup, raconte de l'intérieur la vie de ce météorite qui était Sex Pistols.
D'accord, pour finir, les CD qu'on a écoutés aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, on a écouté Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, donc l'album des Sex Pistols, qui se traduit par On s'en fout, voici les Sex Pistols, un album qui s'appelle Kiss This, qui est une compile aussi de quelques enregistrements des Pistols.
Plutôt pas mal.
Plutôt pas mal, ouais. Il y a quelques maquettes, il y a quelques morceaux non pas inédits mais moins connus, et notamment le My Way de Sid Vicious, de Sinatra aussi. Et le dernier, c'était celui où on a écouté les Ramones, c'était The Definitive Story of CBGB, The Home of US Punk, voilà, qui raconte en deux albums l'histoire de ce lieu mythique qui a marqué lui aussi l'histoire de la musique américaine et du punk.
Merci Luc.
Eh ben de rien, c'est fini pour aujourd'hui. Là.
C'est fini pour aujourd'hui. Comme chaque émission, on va se quitter avec une chanson du groupe qu'on retrouvera dans un mois pour la prochaine émission de Rock'n'Roll Diaries.
Voilà, et alors la prochaine édition, on empruntera les portes de la perception.
De ce cher Aldous Huxley
avec accompagné par Jim Morrison, ça te va ?
Ça me va, très bien.
Bon, très bien.
Allez,
merci
on
beaucoup.
Part dans le rock'n'roll. Salut.
Au revoir. Eat your dinner, eat your pork and bacon.